no.
Say yes or no. Yes or no.
Et la question que nous vous posions vendredi pour aujourd'hui était la suivante. Le corridor IMEC est-il la solution face au chantage iranien sur le détroit d'Ormuz? Alors, sur Insta, vous êtes 80% à penser que oui, c'est la solution face au chantage iranien sur le détroit d'Ormuz. Vous êtes 63% à penser la même chose sur Facebook. En revanche, sur X, il n'y a pas de tendance qui se dégage puisque vous êtes à 50-50 et on va prendre l'avis de notre invité, comme chaque jour, Élise, ce matin, pour en parler, nous sommes avec Léa Landman, elle est géopolitologue spécialiste du Moyen-Orient. Je vous laisse parler de cela avec elle, bien entendu.
Léa Landman, bonjour.
Bonjour, Élise.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, Léa, est-ce que avec nos auditeurs, est-ce que ce corridor IMEC peut être une vraie solution face au chantage iranien sur le détroit d'Ormuz?
Alors, c'est une partie des solutions, puisque ce qu'on voit depuis un petit moment et encore plus depuis le blocage du détroit, c'est que on met le paquet, on accélère plusieurs solutions de pipeline et de corridors qui vont essayer en fait de détourner Ormuz. Alors, c'est pas une solution immédiate, mais ça fait partie des solutions. Après, IMEC, c'est un projet encore plus grandiose que ça, puisqu'il vient exactement au moment des accords d'Abraham. Il a été mis en place grâce aux accords d'Abraham. L'idée, c'est de connecter l'Inde au Moyen-Orient à travers les Émirats d'Arabie Saoudite, la Jordanie, Israël et jusqu'en Europe. Et pour l'instant, c'est un peu bloqué et on essaye de trouver des alternatives. On entend beaucoup de bruit sur le fait que l'idée, ce serait de ne pas passer par Haïfa, mais de passer soit par la Syrie, soit par le Liban. Mais il y a beaucoup d'intérêt quand même pour que ça passe par Haïfa.
Justement, Léa, ça serait quand même une perte stratégique assez importante pour Israël si ce corridor passait plutôt par la Syrie ou ailleurs, mais pas par Israël.
Évidemment, ce serait vraiment un gros problème stratégique. Ce serait vraiment ça serait vraiment un retour en arrière. Après, on passe pas si rapidement par la Syrie. Il y a un projet mis en place là pour l'instant pour passer par. Excusez-moi. Un projet mis en place pour faire passer des pipelines par la Syrie, mais c'est un vieux projet et ça ferait passer par l'Irak. L'avantage de IMEC, c'est que c'est pas où, c'est-à-dire qu'il y a assez de place pour tout le monde. Pourquoi je pense que à la fin ça passera quand même par Israël? Parce que les Indiens, l'Inde a un gros intérêt dans le port de Haïfa. Ils ont racheté une grosse partie du port de Haïfa, donc il y a des gros intérêts en jeu. Après, encore une fois, c'est pas ce qu'on appelle en anglais un zero sum game, c'est-à-dire c'est pas où ça passe par le Liban ou ça passe par Israël. Normalement, il y a de la place pour tout le monde.
Alors justement, Léa, visiblement, les gens qui poussent aujourd'hui pour que ça ne passe pas par Israël auraient entre autres l'Arabie Saoudite. Et c'est un peu décevant côté israélien parce que c'est vrai que l'idée, c'était justement de faire de ce corridor le pilier d'une intégration régionale, y compris avec l'Arabie Saoudite. Et pourquoi pas, puisqu'on en parlait, voire on en rêvait déjà, d'une normalisation des relations entre l'Arabie Saoudite et Israël.
Alors oui, c'est décevant, mais le mot décevant, il est peut-être pas complètement adapté. Lindsey Graham, qui vient de décéder, qui était un grand ami d'Israël et du projet de d'intégration régionale, était en train de travailler sur un blitz de normalisation pour essayer de raviver la normalisation entre l'Arabie Saoudite et Israël. Je rappelle quand même que même avant le 7 octobre, là, il n'y avait pas de coopération officielle entre l'Arabie Saoudite et Israël autour d'IMEC, et pourtant, le projet avançait, sachant quand même que l'Arabie Saoudite savait qu'Israël était dans le projet, puisque le projet original a commencé par une structure qui était Israël, États-Unis, Inde, Émirats. Ça s'appelle I2U2. Donc, l'idée, c'est de se dire qu'à la fin, l'Arabie Saoudite est tout à fait capable de coopérer avec Israël indirectement. On le voit à travers CENTCOM, on voit à travers des frappes aériennes, on sait que les Israéliens ont vendu des systèmes de sécurité et d'armes et de défense aux Saoudiens. Donc on trouve toujours une solution quand on a envie de travailler ensemble, de coopérer, même quand il n'y a pas de relations officielles.
Bien sûr. Est-ce que c'est l'influence de la Turquie, Léa Landman, qui pousse l'Arabie Saoudite à chercher une autre route que celle qui était, qui passe par Israël?
Alors déjà, il faut savoir que c'est pas seulement en Europe aussi, on entend des voix qui disent de pas faire passer Haïmek par Israël. C'est pas seulement la Turquie, bien sûr la Turquie a un grand rôle, mais c'est vraiment l'Arabie Saoudite qui cherche en fait un peu sa place stratégique et son positionnement stratégique. Depuis plusieurs mois, on voit bien que même à l'intérieur des pays du Golfe, il y a des grosses tensions. C'est pas seulement une histoire israélienne ou une histoire turque, c'est une histoire de l'Arabie Saoudite qui cherche aussi son positionnement. Ça aide pas évidemment que la Turquie d'Erdogan pousse à isoler Israël encore plus. C'est sûr que ça n'aide pas.
Alors, dans ce corridor IMEC, il y a aussi une révolution énergétique internationale, Léa, et ce nouvel axe, il pourrait permettre d'exporter des quantités massives d'énergie renouvelable, et ça permettrait peut-être à long terme une dépendance mondiale un peu moins importante vis-à-vis du pétrole et du gaz. Et ça, évidemment, pour Israël, ça a un deuxième avantage, si j'ose dire, c'est le deuxième effet qui se coule, c'est de faire baisser un petit peu le poumon économique de Téhéran.
Bien sûr. Alors ça, évidemment, encore une fois, ça, je pense que ça va faire partie des processus qui vont beaucoup s'accélérer au Moyen-Orient, surtout que le Moyen-Orient a quand même un énorme avantage et c'est le soleil, donc l'énergie solaire. On sait qu'une partie des accords avec la Jordanie qui sont en discussion maintenant, c'est de créer des grosses structures d'énergie solaire. Donc l'idée générale, c'est effectivement de réduire cette dépendance. Est-ce qu'on arrive à une dépendance zéro? J'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai aucun doute que la dépendance totale sur l'Iran qu'on voit là maintenant, elle va forcer d'autres solutions. Entre autres, c'était effectivement une révolution dans l'énergie, dans les énergies renouvelables. Ça, c'est évident. C'est pour ça que je pense que l'Iran est en train de jouer une carte. C'est peut-être la dernière carte qu'elle peut jouer. Pour l'instant, ça bloque tout le monde, mais la chose principale que ça crée, ou le phénomène principal que ça crée, c'est une accélération de toutes les alternatives, les routes alternatives, les énergies alternatives, etc. Donc vraiment un repositionnement autour de ça. Ça peut pas être rapide, hein. Mais en tout cas, sur le long terme, c'est court, moyen et long terme, c'est sûr que c'est ce qui va se passer.
Alors, ma dernière question, ce sera sur le fait, Léa, que cette période qu'on est en train de vivre en ce moment, elle est donc cruciale. Parce que d'un côté, on comprend que si Israël fait preuve d'une certaine souplesse diplomatique et parvient à empêcher que le corridor ne le contourne, alors ça va être un coup stratégique vraiment important pour Jérusalem et contre les Iraniens. Et en revanche, si Israël laisse le corridor finir par se diriger vers la Turquie ou ailleurs, c'est Téhéran qui va avoir un immense avantage et Israël qui serait plus isolé dans la région. Qui d'autre véritablement joue un rôle important dans cette pièce?
Alors, l'Inde, déjà. Et après, il ne faut pas surestimer la confiance des Saoudiens dans les Turcs. Jusqu'en 2019, par exemple, quand vous aviez des conversations avec les pays du Golfe et que vous leur demandiez quelle était leur menace principale, on entendait parler de l'Iran, mais pour eux, c'était un peu moins grave puisque c'était pris en main par la communauté internationale, donc l'Iran, mais surtout la Turquie. Donc là, il y a une sorte de convergence d'intérêts pour l'instant à bloquer la puissance militaire israélienne et l'hégémonie militaire israélienne dans la région. Mais je surestimerais pas la volonté saoudienne de compter sur la Turquie. Et en plus de ça, Haïmek n'est pas censé passer par la Turquie. Il y a des projets parallèles qui doivent passer par la Turquie. Je ne suis pas sûre que l'Inde ait envie de mettre tout son paquet sur la Turquie également. Donc en fait, on ne va pas surestimer non plus la confiance qu'on peut interpréter là avec un réalignement. C'est pas un vrai réalignement. Ce sont des intérêts ad hoc. Et encore une fois, l'Inde a intérêt à ce que ça passe par un pays qui peut pas exploser en 3 secondes. Alors, je sais que c'est paradoxal quand on parle d'Israël qui est en guerre depuis 3 ans, mais Israël est quand même plus stable que le Liban ou la Syrie.
Merci beaucoup, Léa Landman, d'avoir été avec nous ce matin pour cette question
avec
du
grand
jour.
Plaisir.
Je rappelle que vous êtes géopolitologue et spécialiste du Moyen-Orient. Bonne journée à vous, à très bientôt.
Bonne journée, Lise, à très bientôt.